Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Le gouvernement retient son souffle après la troisième salve d'annonces en une semaine. Gabriel Attal a obtenu de la FNSEA et des jeunes agriculteurs la suspension du mouvement. Pause sur les pesticides, pression sur les grandes surfaces, allègement des règles sur les successions et enveloppe de 150 millions. Le principal syndicat agricole parle, je cite, d'avancées tangibles. Pendant ce temps-là, une autre bataille se déroule à Bruxelles où les tracteurs sont venus en nombre pour interpeller les chefs d'État réunis en Conseil européen face à la colère dans plusieurs pays d'Europe. Les 27 sont priés de revoir les règles du jeu sur les jachères ou encore sur les conditions du traité de libre-échange, le Mercosur, avec un sujet qui est en train de monter, les faveurs accordées à une Ukraine en guerre, candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Agriculteur, Attal a-t-il déminé? On pose la question ce soir. Pour y répondre avec nous, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage, Le Grand Basculement, est publié chez Robert Laffont. Sylvie Matelli est avec nous, vous êtes économiste, directrice de l'Institut Jacques Delors. Vous étiez à Bruxelles ce matin, vous allez nous raconter, je rappelle votre livre, L'économie tout simplement aux éditions Erol. Marion Van Rettegem est avec nous, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Votre ouvrage Le piège Nord Stream est publié aux éditions Les Arènes. Avec nous ce soir, Cyril Gradiani, vous êtes rédacteur en chef du service politique de France Télévisions. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Faut-il y voir un premier signe d'apaisement? Je me tourne vers vous, Cyril Gradiani. On a entendu la FNSEA parler de suspension du mouvement, les jeunes agriculteurs aussi, je le disais à l'instant, comment sont reçues les déclarations de Gabriel Attal?
Il faut voir maintenant comment la base va interpréter ces nouvelles annonces, ces nouvelles propositions de déblocage de la crise. On sait qu'hier, Gabriel Attal a de nouveau rencontré les leaders de ces syndicats, FNSEA et jeunes agriculteurs. Pour autant maintenant, est-ce que sur le terrain, les annonces vont satisfaire. La difficulté du mouvement, c'est que toutes les revendications sont assez éparses partout sur le territoire. À qui critique le Mercosur? À qui critique la problématique avec la volaille ukrainienne? Donc, il va falloir voir maintenant dans les prochaines heures si la FNSEA tient ses militants. Puis il faudra aussi savoir comment réagiront les autres organisations syndicales, à savoir la coordination rurale, dont on sait qu'ils étaient devant Rungis, qu'ils ont voulu faire le blocus de Rungis et qui n'étaient pas totalement associés aux discussions.
Et la Confédération paysanne qui a annoncé déjà qu'elle continuait, qu'elle poursuivait le mouvement. Philippe de Sertine, sur le moment dans lequel nous sommes, je disais, le gouvernement retient son souffle, on ne sait pas encore de quel côté ça peut basculer, ou est-ce que quand même, quand le principal syndicat, la FNSEA, dit bon, pour nous, il y a des avancées substantielles. Et d'ailleurs, le problème, et on va en parler beaucoup ce soir, c'est plus l'Europe que le gouvernement français. Est-ce que ce n'est pas quand même un signal d'apaisement qui peut être entendu?
Sûrement. Et en même temps, dès le démarrage de cette crise agricole, ce qui a beaucoup frappé, y compris d'ailleurs quand on interviewait notamment les agriculteurs dans le sud de la France, en Occitanie, c'est qu'en fait, ils étaient contents d'avoir été plus vite que les syndicats. Ça a été vraiment quelque chose de très important, c'est que très clairement les syndicats depuis le départ courent après le mouvement. On a eu d'ailleurs une figure qui s'est détachée en Occitanie, qui n'était pas syndiquée, qui est devenue d'ailleurs, ça a posé problème avec les syndicats parce que le Premier ministre est allé rencontrer M. Bell qui a les honneurs de l'équipe aujourd'hui, donc c'est quand même un peu paradoxal. Donc je dirais qu'il a été un peu la figure emblématique. On était typiquement justement dans cette course poursuite. Alors on a le problème français, mais on l'a même, on voit bien, par rapport à l'Europe. Parce que là aujourd'hui, si les grands syndicats disent, ah ben non, vous rentrez dans les exploitations, mais que l'Europe devient le théâtre de la colère agricole. On sait que la Grèce, là, il y a quelques heures, on avait des mots d'ordre très très forts des agriculteurs.
Le Portugal hier aussi.
L'Espagne, le Portugal, la Grèce. Donc ce serait curieux, évidemment, que la France, première puissance agricole européenne, tout d'un coup devienne sage, alors qu'elle a été, avec l'Allemagne probablement, avec d'ailleurs aussi un peu la Belgique et les Pays-Bas, le pays où la colère a véritablement fait trembler le pouvoir.
Et nous allons parler de l'Europe, mais si on reste reste sur la situation française. Sylvie Matelli, je ne sais pas si vous avez pu jeter un œil aux annonces, aux dernières annonces de Gabriel Attal. Il y a quand même des choses qu'il a mis sur la table. Mise en pause du plan Ecophyto qui devait permettre de réduire 50% l'usage des pesticides. Je cite une autre mesure, par exemple l'assouplissement des règles imposant aux agriculteurs de maintenir des surfaces en prairie. C'est assez ciblé par rapport à la longue liste de revendications de la FNSEA.
Il y a aussi la transmission qui va être facilitée,
très important,
etc. Effectivement, je pense que les agriculteurs sont probablement rassurés de se rendre compte que leur problème a été entendu, leur problème a été compris. Il n'empêche qu'ils sont aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile pour des tas de raisons. On a parlé de l'Ukraine, mais ce qu'on oublie souvent aussi de citer, c'est que toute la difficulté quand vous êtes agriculteur ou quand vous êtes exploitant de matières premières en général, c'est que vous semez à un moment donné et eux ont semé à l'automne dernier, là où les prix de l'énergie étaient au plus haut. Donc ils ont engagé de l'argent, ils ont engagé beaucoup de frais. Ils ont produit au printemps, cet été, ils ont vendu, je regardais les cours avant de venir, les cours du blé, les cours de maïs se sont effondrés à l'automne parce qu'il y a eu de bonnes récoltes. Donc ils ont vendu à perte, ils ont perdu beaucoup d'argent et je pense que c'est tout ça qui a fait monter la colère parce que quand ils ont commencé à regarder les contraintes plus le retour sur investissement de leurs exploitations, ils ont probablement été extrêmement déçus. Donc aujourd'hui, le sujet a été entendu, reste à savoir ce qui va se passer ensuite parce qu'il n'empêche que le changement climatique, c'est une réalité aussi pour les agriculteurs et je crois qu'ils en ont bien conscience.
Et on va beaucoup en reparler ce soir hein, puisqu'on parlait de la question du plan Ecophyto et de toutes les contraintes européennes imposées au nom de la protection de l'environnement et on a l'impression que ça devient plus trop une priorité européenne. On va en reparler. Vous vouliez ajouter quelque chose, Cyril Gratiani ?
Est-ce que ces annonces sont ponctuelles ou est-ce qu'elles sont structurelles ? La difficulté aujourd'hui pour résoudre tout le problème de la crise agricole, c'est de prendre des décisions qui pourront être étudiées à long terme. La question des prix, la question des normes. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait et tout ce qui est décidé, c'est que du court-termisme. C'est pour essayer de calmer l'incendie. Le fond du problème reste et est toujours maintenu.
Oui, lorsque par exemple il y avait des ministres qui étaient autour de Gabriel Attal, notamment le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui dit on va renforcer la loi Egalim, toutes les grandes enseignes de supermarchés seront contrôlées, etc. Il y a cette idée effectivement de quelque chose qui est fait dans l'urgence pour mettre la pression sur la grande distribution.
Prenez ce qu'a dit la semaine dernière Gabriel Attal en disant que trois grandes entreprises avaient été sanctionnées, sauf que ça n'est pas des sanctions, c'est juste des rappels à l'ordre pour le moment en ce qui concerne la loi Egalim et les sanctions, parce qu'il y avait, on a cité Lactalis, on a cité, je crois, Bigard, Malo, qui ont quasiment toutes démenti avoir été sanctionnées. Mais ça veut dire quoi aujourd'hui réussir à peser sur ces entreprises.
Et on y viendra, je suis sûre que vous en parlerez tout à l'heure, sur la grande mutation de l'agriculture qui est sans doute nécessaire en Europe. Un sondage, vous allez voir, pour vous, Marion Van Rettegem. Quels sont les principaux responsables de cette crise agricole ? 39, je ne vous demande pas à vous, si vous voulez répondre à mon sondage, je vous allez. 39% l'Europe, 32% les grandes enseignes commerciales, 23% le gouvernement. Mmh. Donc en fait, quand ils cherchent des responsables, les Français se tournent plutôt vers l'Europe.
Oui, forcément.
Concernant l'agriculture.
Forcément, on montre toujours l'autre. Ouais. Mais vrai dire, c'est ça le problème, c'est que c'est enchevêtré, que c'est un problème national, c'est un problème européen, c'est un problème international. Et l'Europe est à la fois responsable de ce conflit, mais en partie seulement. Parce que les directives européennes, d'abord, sont votées par les peuples, par les représentants des peuples européens, les députés et les dirigeants, et lesquels sont les directives passent ensuite devant les parlements nationaux et sont transformées par les parlements nationaux. Et le conflit entre les agriculteurs français et espagnols montre bien que ce n'est pas Bruxelles le problème, c'est entre deux pays parce qu'il y a une surtransposition des normes en France par rapport à l'Espagne. Mais surtout, je pense que ce que cette révolte montre, elle place l'Europe, l'Union européenne, encore une fois, la Commission, mais aussi le Parlement et le Conseil, face à ces contradictions de principes. Il y a deux principes qui rentrent en collision. Il y a le principe écologique qui repose d'ailleurs du coup sur une transformation de l'agriculture, une transformation verte de l'agriculture qui repose sur la décroissance. Et il y a un principe économique qui lui repose sur la croissance et notamment par la signature de traités de libre-échange comme avec le Mercosur. Et donc ces deux principes sont tout à fait louables pris séparément. Simplement, quand ils entrent en collision, ça fait en sorte, ça crée des normes aberrantes comme le fait que on demande, on exige des agriculteurs européens des normes phytosanitaires, environnementales, qu'on n'exige pas de produits qu'on importe, donc ça ne va pas. Et c'est vrai que les agriculteurs, du coup, se retrouvent comme les dindons de la farce et comme la variable d'ajustement, ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Donc leur révolte est tout à fait légitime, mais ce qui est très compliqué à résoudre, c'est qu'il y a plusieurs acteurs, c'est national, européen et international, et comme avec les traités de libre-échange.
Et d'ailleurs, Gabriel Attal et Emmanuel Macron se sont répartis les rôles sur ce dossier-là, on le verra dans un instant, puisque l'un s'exprimait à Paris et l'autre à Bruxelles. Troisième salve d'aide, je le disais, en une semaine pour Gabriel Attal, et peut-être l'ébauche d'une sortie de crise avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui appellent à suspendre le mouvement, mais dénonce la surdité des instances européennes. C'est bien à Bruxelles que la pression monte désormais, avec 1000 tracteurs qui se sont invités au Conseil européen. Léo Seux et Christophe Roquet.
Le Parlement européen, cerné par des agriculteurs en colère. Eux, Pierre Bouteille, face aux projectiles, la police réplique avec des canons à eau. Situation très tendue ce matin à Bruxelles. Ville assiégée, de l'aveu même du Premier ministre belge. Dès hier soir, plus d'un millier de tracteurs ont investi la ville. Des agriculteurs venus mettre la pression sur les dirigeants européens, réunis en sommet.
Je pense que c'est le bon moment pour qu'ensemble, tous les agriculteurs européens, nous allions dans la rue exprimer nos attentes, parce que nous ne pouvons attendre encore 5 ans davantage de législation. Nous voulons des clauses miroirs pour l'égalité entre les pays, c'est absolument nécessaire. Nous voulons sauvegarder nos traditions, nos agriculteurs, notre alimentation de qualité, mais pour sauvegarder tout cela, il faut de la dignité, un revenu digne.
Ce n'était pas à l'ordre du jour, mais la crise agricole s'est invitée au menu de la réunion des 27. Emmanuel Macron a notamment rappelé les distributeurs à l'ordre.
Nous avons vu s'organiser ces dernières années, c'est certains distributeurs qui se sont organisés au niveau européen par des centrales d'achat et qui, avec ces dernières, cherchent à contourner la loi française. Au fond, ils font une Europe plus forte, plus concrète, pour protéger le revenu de nos agriculteurs. C'est maintenant là que se joue une partie de ce nouveau combat.
L'exécutif sur tous les fronts. À la mi-journée, c'est Gabriel Attal qui présentait lors d'une conférence de presse un troisième volet d'annonces. Mise en pause du plan Ecophyto, un allègement donc des contraintes sur les produits phytosanitaires pour les agriculteurs. 150 millions d'euros pour les éleveurs en soutien fiscal et social. 2 milliards d'euros pour faciliter l'accès aux prêts. Des contrôles pour les industriels et la grande distribution. Et ce n'est pas tout.
Je vous annonce donc que j'ai décidé de prendre sans délai une clause de sauvegarde sur le thiaclopride qui interdit enfin l'importation de fruits et légumes traités avec ce pesticide que nous avons interdit en Europe. L'Europe n'a à ce stade pas pris de mesures de sauvegarde sur ce produit. Nous décidons donc en France de le faire en avance de phase. Pas d'interdiction sans solution, pas de surtransposition. C'est l'engagement du président de la République depuis 2017. Nous le tiendrons.
Une heure plus tard, réaction des syndicats majoritaires, FNSEA et jeunes agriculteurs, à ce nouveau train de mesures.
Nous considérons qu'il faut qu'on change de mode d'action et donc nous appelons nos réseaux par les voies nationales à suspendre les blocages et à rentrer dans une nouvelle forme de mobilisation.
Ce discours, il montre la direction. Il faut maintenant transformer l'essai. Il faut très clairement que l'on puisse mesurer ce que cela change.
Tout au long de la journée, des actions se sont poursuivies dans toute la France. Sur l'autoroute A9, une opération escargot entre Perpignan et l'Espagne. Et ce soir, malgré l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs à changer de méthode, la Confédération paysanne maintient quant à elle sa mobilisation.
Donc il est quand même trop tôt pour considérer que ce mouvement est en train de se terminer, Cyril Graziani.
Il faut voir dans les prochains jours l'évolution, justement, ce dont on parlait tout à l'heure. La base, est-ce que la base va suivre ou est-ce que la base va s'affranchir des demandes qui étaient quand même assez claires ce soir des principaux représentants syndicaux.
En tout cas, ils ont beaucoup lâché. depuis le début de cette crise, peut-être avec vous, Philippe de Sertine.
Oui, bien sûr, et peut-être même plus que les premiers agriculteurs qui bloquaient les autoroutes pensaient qu'ils obtiendraient. Mais je crois qu'évidemment, en même temps, le malaise, quand l'agriculture comme ça sort de façon très forte, c'est en réalité qu'il y a un malaise, et Marion van Peteghem le disait à l'instant, c'est-à-dire qui est vraiment protéiforme, qui est extrêmement important, qui est très structurel. Au fond, l'agriculture, et peut-être ça, vous voyez, c'est un élément qui a été un élément important pour la population, je dirais, agricole française, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une adhésion. Parce qu'au fond, c'était un des grands, grands malaises qu'a la population agricole française. C'est le sentiment qu'hormis le moment particulier du Salon de l'agriculture, qui va commencer dans quelques jours, en fait, ils étaient devenus les mal-aimés. Et là, ils ont eu le sentiment, d'abord, ils ont eu le sentiment d'une solidarité agricole, qui n'était pas forcément évidente. C'est quand même un monde, on va dire, où les gens sont dans leurs exploitations, donc plutôt individualistes. Et surtout, une solidarité de la population française. Et ça, je pense que c'est un élément qui a été important, on va dire, dans le moteur du mouvement. Mais qui signifie aussi, évidemment, que c'est aujourd'hui une sorte de carburant. Parce que ça veut dire que la population continue d'appuyer les revendications et, au fond, appuie beaucoup plus que peut-être les agriculteurs ne le pensaient au départ, je dirais, ce qu'ils veulent, ce qu'ils envisagent pour le futur.
Mais ils ont obtenu beaucoup. C'était la question.
Ils ont obtenu beaucoup, mais encore une fois, il faut savoir d'où on vient. C'est-à-dire, là, lorsqu'on est en train de regarder, par exemple, le fait de ne pas avoir la taxe sur les carburants qui devait se mettre en place jusqu'à 2030, vous vous rendez compte, en fait, l'agriculture avait subi une énorme augmentation du coût de son énergie l'année dernière. Et au moment où, comme toute l'économie, elle disait, bon, bah, ça y est, maintenant, ça va peut-être devenir un peu plus supportable, hop, vous avez une taxe qui se met en place et qui va se mettre en place année après année. Alors qu'on est avec, toujours pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Valérie tout à l'heure, avec des cours très faibles, donc des revenus qui ont diminué. Les revenus étaient beaucoup plus élevés que l'année dernière que cette année. Effectivement, aujourd'hui, on est à moins, aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est à moins de 210 euros la tonne de blé. On était à 430 au plus fort.
Mais le mouvement ne pourrait pas se retourner quand on voit, par exemple, je ne sais pas ce que peut penser l'écologie politique à un moment donné, du fait que sur le plan éco-phyto, il est maintenant urgent d'attendre.
La réaction, d'ailleurs, ne s'est pas fait attendre cet après-midi.
Ça peut être contre-productif pour le gouvernement à un moment donné de continuer à maintenir son volontarisme en termes écologiques, ou est-ce que c'est devenu un sujet secondaire?
Moi, je ne dirais pas secondaire. Je pense que du point de vue, et c'est le problème à Bruxelles, du point de vue des opinions publiques mondiales occidentales, on a une vraie question sur, en fait, est-ce que la question écologique est toujours prioritaire? Et même, on a le sentiment, aux États-Unis, on a vraiment très clairement le sentiment que c'est même l'inverse, ce qui est quelque chose d'extrêmement grave,
Je pense qu'on revient à cette phrase qui reste géniale et pour moi qui reste un trophée, la phrase des Gilets jaunes qui avait dit « Vous pensez à la fin du monde, moi je pense à la fin du mois ». Et on est toujours dans ce dilemme-là, et là on est obligés tous de penser à la fin du mois parce que la fin du monde attendra.
Est-ce qu'on est confronté là à un mouvement qui aurait une forme de cohérence, de cohésion, un mouvement européen des agriculteurs? Vous étiez à Bruxelles, je le disais ce matin. Est-ce qu'il y avait une tension particulière, une inquiétude particulière au moment du Conseil européen, justement? On peut voir la carte de la mobilisation. Quasiment tous les pays un peu agricoles ont un mouvement d'agriculteurs en colère.
D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de noter que le Conseil européen d'aujourd'hui n'avait pas mis à l'ordre du jour la question agricole au départ. Ça a été imposé. Et dès hier soir, les tracteurs sont arrivés toute la nuit. C'était journée télétravail aujourd'hui à Bruxelles parce qu'on ne pouvait pas accéder, au bureau. Et les costards cravates avaient été remplacés par des tracteurs. Mais alors, un tracteur, c'est bien plus encombrant. Ça occupait toutes les rues. C'était assez intéressant. C'était très symbolique parce qu'ils avaient bloqué toutes les rues qui entoure le quartier européen, et donc exactement l'endroit où se retrouvaient ce matin tous les chefs d'État pour le Conseil européen. Alors les institutions en tant que telles n'avaient pas été accessibles. Ils y sont allés à pied. Ils ont revendiqué et expliqué leurs revendications à pied. Mais l'ensemble du quartier était vraiment bouché. Toutes les rues étaient bouchées et on sentait dès hier soir la tension avec des barbelés qui avaient été installés partout, avec des policiers qui avaient été démultipliés. Alors c'est toujours le cas quand il y a un Conseil européen, mais là on sentait vraiment qu'il allait se passer quelque chose.
Et on a vu que Emmanuel Macron, qui était là-bas, donc s'est emparé du sujet. On a vu rapidement dans le reportage, il a fait quelques annonces. On va l'écouter d'ailleurs, notamment sur le traité de libre-échange, le Mercosur.
Lui, dans l'état des textes du Mercosur, la France s'oppose et continuera de s'opposer à cet accord de libre-échange avec la région Mercosur. On demande simplement que les règles environnementales et sanitaires qu'on impose à nos agriculteurs et à plusieurs autres professions, eh bien, soient les mêmes du côté, justement, des pays à qui on est en train d'ouvrir nos portes. Sinon, ça n'est pas juste.
Suspendre la discussion sur le Mercosur, on n'était pas favorable.
La France.
Oui,
la France.
L'Allemagne est en train de changer d'avis.
Oui. Et de très longue date, la société civile européenne, dans une très grande majorité, est quand même extrêmement prudente vis-à-vis des traités de libre-échange. Rappelez-vous les manifestations au moment du CETA, rappelez-vous la façon dont le TTIP a été, le traité avec les États-Unis avait été enterré par Donald Trump, mais vraisemblablement les Européens n'ont pas pleuré. Donc on sait qu'il y a une société civile qui commence à réfléchir à ces traités de libre-échange en se demandant si
c'est la bonne méthode. Mais qui le souhaite alors ? Qui le veut ? Ce traité de libre-échange. Pas les agriculteurs, on l'a compris, pas le président de la République, on l'a compris.
Les entreprises, parce que ça. Et les entreprises et les grands de l'agriculture, qui ça permet un accès à des marchés internationaux, parce que c'est aussi de l'ouverture dans les deux sens, en fait. C'est pas seulement l'accès à notre marché, c'est l'accès aux marchés internationaux. Donc, bien évidemment, il y a des acteurs économiques qui ont intérêt.
Et en particulier les Allemands.
Et en particulier les Allemands.
On peut le dire.
L'automobile allemande notamment, voilà. Parce que là, le Mercosur, hein, c'est Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay. Hein, c'est-à-dire alors vraiment des marchés pour l'Allemagne qui sont presque des marchés historiques, pourrait-on dire. Mais je pense que, vous voyez, par rapport à cette ambiance européenne, on doit ne pas oublier que c'est les élections européennes qui arrivent. Mmh. Donc le renouvellement de la collection pour Ursula, de la Commission, Ursula von der Leyen, c'est un très gros sujet parce que, en fait, ce qui est en cause dans la colère agricole aujourd'hui européenne, c'est le fameux Green Plan, enfin le pacte vert que l'on avait mis en place, hein, From Farm to Fork pour l'agriculture, c'est-à-dire, en fait, en 2019, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que l'Europe disait, eh ben, en fait, on va moins produire, on est dans une décroissance, c'est-à-dire, on affichait très clairement qu'on n'allait pas pouvoir nourrir l'Europe. Et
pourquoi
c'était en 2019.
Et pourquoi c'était...
Parce qu'on disait, il faut absolument qu'on soit dans une logique la plus vertueuse possible du point de vue écologique.
Et en disant, déjà cher, donc moins d'exploitation.
Mais donc de l'importation. Et donc, effectivement, en disant, bah oui, il y aura des. On fera en plus des accords qui nous permettront de. Puis là-dessus, vous avez Covid. C'est-à-dire tout d'un coup les Européens qui disent « Ah oui, mais au fait, on mange quoi ce soir ?» Et bien sûr, vous avez la guerre. C'est-à-dire la question de la souveraineté. Et le problème, c'est qu'on n'a pas revu le texte. Et là, on voit très bien d'ailleurs sur la jachère, on dit « On va faire des exceptions ». Et on voit bien qu'Ursula von der Leyen, probablement, est en train de dire « Attention, il ne faut pas dire qu'on s'est trompé, parce que si on s'est trompé, c'est moi qui vais être en porte-à-faux. » Et elle, je pense, a vraiment l'idée d'être conduite à la tête de la Commission.
Et c'est vrai qu'on a entendu aussi le chef de l'État parler du retour de la souveraineté alimentaire. Donc ça, c'était un sujet qui est revenu sur le devant de la scène, alors qu'à l'époque du Green Deal, c'était pas un sujet. C'était
absolument
plus un sujet.
Pas. Enfin, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que l'agriculture, en 2 ans, est devenue une arme. Et là, pour reprendre le vocabulaire du chef de l'État, c'est une arme. Et c'est une arme d'ailleurs contre nous, mais c'est une arme aussi contre nos partenaires, par exemple sur la Méditerranée, qui peuvent devenir des migrants si demain ils n'ont plus de quoi
manger. Et d'ailleurs, la souveraineté alimentaire, il veut même l'inscrire dans la loi.
Absolument.
C'est Gabriel Attal aujourd'hui.
Ouais. C'est ça.
En ouverture de sa conférence de presse. Ouais.
Alors, avec une petite différence sur tous les sujets, le concept de souveraineté oppose les pays européens. C'est-à-dire, vous avez ceux qui considèrent, comme les Français, que la souveraineté, c'est la capacité à produire soi-même, à relocaliser des industries, à redynamiser l'agriculture, etc., etc. Et puis, vous avez ceux qui considèrent que non, c'est d'aller chercher à l'étranger ce qui nous manque et que la souveraineté, c'est d'abord le commerce. Donc là, vous avez une vraie, et Marion en parlait tout à l'heure, vous avez une vraie divergence entre les Européens, de vraies contradictions et des points de vue qui peuvent être extrêmement différents et conduire à des politiques très différentes.
En tout cas, il a dit Emmanuel Macron...
Pardon, il faut souligner, pour ces traités de libre-échange, ils ont un intérêt, c'est que pour pouvoir exporter, il faut importer, ça marche dans les deux sens. Et que les agriculteurs français ont besoin, et européens, ont besoin d'exporter. Donc on est un peu pris aussi en tenaille par cette
exigence. Et je le disais, pardon, Emmanuel Macron qui dit « j'ai obtenu hein, », il dit « voilà, j'ai obtenu une dérogation sur les 4% des jachères », qui était vraiment une revendication des agriculteurs français. Et alors là, il a parlé aussi d'une mise en place d'un égalim européen. Oui, alors là, ça fait techno, mais c'est pas rien de dire, en gros, on va imposer les mêmes règles de répartition de la valeur entre les producteurs et la grande distribution, ce qu'on a fait au niveau français, il dit « on va le faire au niveau européen ».
Mais ça, est-ce que c'est pas pour se défausser, justement, en disant que la difficulté de le mettre en place en France, on n'y arrive pas en France, donc on va essayer de le mettre au niveau européen.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais là, évidemment, la France est particulière parce que la France a un poids de son industrie agroalimentaire, parce que vous dites la distribution, mais l'industrie agroalimentaire est aussi énormément sur la sellette. Dans Egalim, vous avez ça, hein, c'est-à-dire cette garantie qu'on va donner aux exploitants qu'il y aura un prix minimum, qui est d'ailleurs un peu compliqué parce que c'est un prix moyen, et évidemment, les exploitations n'ont pas du tout la même sensibilité à ce prix moyen.
Cette question de Julien, l'agriculture française pourra-t-elle se passer de l'Europe, et si oui, pourquoi pas le faire ?
Alors là, c'est sûr que non.
C'est sûr que non. Hein.
Non, non, c'est sûr.
Est-ce qu'on connaît la part des aides de la PAC dans le revenu agricole des agriculteurs français, dans le revenu des agriculteurs français?
Il y a des chiffres très contradictoires en réalité.
Oui.
Non, ça va de 20 à 70%,
donc ah oui,
c'est assez énorme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de la plus grande exploitation à la plus petite, les aides européennes et la politique agricole est quelque chose d'extrêmement important.
9 milliards?
Oui, c'est ça, pour la France.
Pour la France seulement, et 50 milliards en soi, c'est le budget le plus communautarisé. Et on voit bien que la majorité des syndicats des agriculteurs ne remettent pas du tout en cause la PAC et l'Union européenne. Aucune.
On est les premiers bénéficiaires en Europe de la PAC. Vous l'avez dit, 9 milliards pour la France, 6 milliards pour l'Espagne, 6 milliards pour l'Allemagne, 5 milliards pour l'Italie et 24 pour les 23 autres États membres. Tous pro-européens, j'imagine,
Par rapport à ce qu'on disait, la dernière PAC, puisque en fait les PAC sont revues régulièrement, la dernière c'était 2023, donc ça fait pas longtemps, c'est important aussi la manière dont elle accompagne l'investissement. C'est-à-dire justement cette question de verdissement, c'est une question de pratique, c'est une question d'investissement. Donc quand vous dites, voyez, sur le revenu, c'est au-delà de ça, c'est la viabilité d'une exploitation. Donc la PAC a cet impact-là. Alors attention, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément facile à récupérer. On se souvient du discours du Premier ministre il y a quelques jours qui dit « on va juste essayer que ce que vous devez avoir par la PAC, vous l'ayez au mois de mars ». C'est-à-dire que là, vous avez ce problème de trésorerie qui est quand même très, très souvent un problème d'exploitation. La PAC, c'est un processus incroyablement compliqué. Hein. On le disait, effectivement, c'est des satellites qui contrôlent les exploitations agricoles. Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup d'économies, hein, de zones économiques dans lesquelles vous avez un contrôle par satellite et vous pouvez être sanctionné si le satellite dit « ah ben non, vous n'êtes pas conforme à vos engagements ». Et ensuite, évidemment, un versement qui prend parfois du temps.
Il y a cette question de Dominique dans les Yvelines. Qu'a vraiment obtenu Emmanuel Macron à Bruxelles? Qu'est-ce qu'il a obtenu?
La jachère.
La jachère.
La jachère qui était un point sur lequel Bruxelles était prêt à reculer.
Et le Mercosur.
Et le Mercosur quand même.
Le Mercosur, ça reste à voir.
Il a obtenu qu'on le range, qu'on le mette de côté.
On l'oublie quelque temps.
Oui, ouais. Voilà.
Il peut avoir
d'ailleurs. Il a gagné sur les Allemands là-dessus.
Il peut avoir d'ailleurs, de son point de vue, hein, ces industriels qui, quand il va rentrer à Paris, vont lui dire cher ami.
Parce que le MEDEF est très pro-Mercosur.
Oui, absolument.
Est-ce qu'on réfléchit collectivement au modèle? C'est-à-dire que là, on voit bien que l'urgence européenne et l'urgence française, c'est d'éteindre l'incendie d'une profession qui est en colère et qui a peut-être des raisons de l'être, hein, en colère, puisqu'on voit que ça contamine l'ensemble des Européens. Mais est-ce que collectivement, on réfléchit au modèle depuis qu'on s'est rendu compte que le Green Deal posait ce pacte vert plutôt pour poser un problème aux agriculteurs?
Alors la nouvelle politique agricole commune de la fourchette, de la ferme à la fourchette, a proposé un certain nombre d'évolutions pour rendre compatible l'agriculture européenne avec le changement climatique. Bien évidemment, c'est très souvent perçu par les agriculteurs comme un surplus de normes, un surplus de règles, pas toujours adaptées à leur activité. À l'autre bout de la chaîne, les agriculteurs y réfléchissent contraints et forcés, parce que ça fait déjà des années qu'ils sont directement impactés par les hivers qui changent. Et des hivers qui changent, c'est des hivers plus doux en janvier-février, mais des gels ou des périodes de gel au mois de mars, alors que tout est en train de prendre. C'est de nouvelles cultures qu'il faut semer, etc., etc. Donc il y a des réflexions qui sont engagées, mais c'est vrai qu'on sent qu'il manque de coordination entre le haut et le bas. Alors ce qui est très intéressant à rappeler, c'est que von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, avait annoncé un dialogue stratégique entre les Européens, la Commission européenne et des experts de l'agriculture et les agriculteurs, et que, hasard du calendrier, le groupe de travail qui a été mis en place a commencé à travailler le 25 janvier sur toutes ces questions.
Oui,
Cyril Gradiani.
Mais c'est marquant et c'est frappant du retard à l'allumage tout à l'heure.
Exactement.
Quand vous posiez la question à Marion sur la responsabilité du gouvernement, il y a une petite musique qui monte de plus en plus sur est-ce que le gouvernement, au mois de décembre, a vraiment entendu les signaux qui remontaient du terrain? Alors certes, ce n'était pas Gabriel Attal qui était à Matignon, c'était Elisabeth Borne, mais il est vrai que Gabriel Attal a récupéré, si vous me permettez l'expression, la patate chaude quand il est arrivé. Il a dû gérer sa première crise d'ampleur une fois seulement arrivé à Matignon, alors qu'on se demande ce qui s'est passé au mois de novembre, au mois de décembre, alors qu'on le savait, en Allemagne, ça commençait à monter, dans d'autres pays européens, il y avait une grogne qui était quand même assez palpable, et en France, on a fait comme si ça n'allait pas
comme
nous arriver.
Comme si ça allait passer.
Oui.
Hein, oui. Alors que l'enjeu, vous l'évoquez très souvent sur notre plateau, Philippe de Sertine, l'enjeu de la transition écologique et du changement de modèle, c'est une histoire d'argent. Oui. Aussi, ça va coûter très cher. Et est-ce que l'Europe va mettre, à un moment donné, le paquet pour financer cette transition ?
Pour ajouter à ce que disait Sylvie tout à l'heure, vraiment, en réalité, la vraie question et le vrai problème qu'ont les agriculteurs, typiquement qu'ont eu les bio, qui sont les premières victimes de l'inflation, c'est qu'en réalité, ils créent une valeur supplémentaire à la production qu'ils réalisent. C'est ce que d'ailleurs vous dit l'agriculture, c'est aussi pour ça qu'elle nous intéresse. Parce qu'on dit, en fait, oui, mais c'est le paysage français. C'est-à-dire qu'un agriculteur, il n'a pas simplement sa plantation qu'on voit là. Il va faire le talus, il va s'occuper des haies, il va d'ailleurs planter les haies. Le Premier ministre lui-même a dit qu'il y avait 14 normes pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire que là, la question de qui finance, on va dire, cette valeur supplémentaire, qui est en réalité la grande question du changement de modèle, pas simplement dans l'agriculture. Ouais. C'est en disant, vous avez la production, mais il faut que votre production soit vertueuse. Si elle ne l'est pas, vous perdez de la valeur. Si elle l'est, elle doit vous faire gagner de la valeur. Là, la seule approche que l'on peut avoir du point de vue de l'agriculture, on l'a eu d'ailleurs souvent dans les discours, il va falloir payer plus cher. Mais non, le consommateur ne peut pas. Ce n'est pas forcément sur lui qu'il va falloir faire peser. Alors on va dire l'État. Non, l'État ne peut pas non plus. Alors l'Europe, qui est les États. Non, non plus. L'exploitant, c'est lui qui le fait. C'est-à-dire il a aujourd'hui des revenus beaucoup trop faibles par rapport à l'effort qu'il fait. Ça ne marche pas. Reste le financement privé. C'est ça la grande question. C'est-à-dire que, on va dire du point de vue européen, ce qui est la grande idée européenne, et là pour le coup ça va beaucoup plus loin que l'agriculture, c'est de dire l'information extra-financière. C'est-à-dire en fait, voyez, vous avez l'activité normale, puis vous avez de l'information dans laquelle on va regarder comment vous produisez. Eh bien ça, c'est la grande révolution financière européenne qui est pour diriger les financements.
Je résume, pour être sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire aux institutions financières ou aux organismes financiers, on va dire...
Non, si vous... on dit ça y est.
On dit déjà, vous financez une transition écologique et un modèle vertueux, on vous fait des taux préférentiels.
Un, et deux, de toute façon, si vous ne le faites pas, les banques, par exemple, vont être pénalisées par la Banque Centrale Européenne. Ça y est, c'est déjà ça. C'est-à-dire, on est déjà là-dedans. Il faut qu'on arrive à diriger ces financements qui cherchent à tout prix de la vertu, notamment vers l'agriculture.
Et si l'humeur des Européens était en train de changer sur un dossier qui est lié à notre discussion ce soir sur l'Ukraine. En tout cas, les agriculteurs sont passés de la solidarité à la colère concernant les conditions d'importation du blé ukrainien multiplié, tenez-vous bien, par 20 en 2 ans et celle du poulet ukrainien élevé dans des fermes-usines qui est, je crois, 3 fois moins cher que le poulet qu'on trouve sur le marché européen. Une concurrence jugée naturellement déloyale par les agriculteurs, Laura Rado et Ilana Azinko.
Sur les barrages, les points de blocage, dans les cortèges de tracteurs, s'est invité un sujet inattendu, l'Ukraine. Devenue en quelques jours l'épouvantail des agriculteurs français.
Ils ont pas les mêmes normes pour cultiver, ils n'ont pas les mêmes matières actives autorisées, donc c'est évident qu'ils vont arriver, ils n'ont pas des mêmes charges sociales que nous, donc c'est évident qu'ils vont arriver avec des betteraves moins chères que ce qu'on sait faire en France.
Colère contre les betteraves, les œufs, les poulets ukrainiens en France, contre les céréales ukrainiennes en Roumanie, où là aussi, les fermiers se disent battus par des coûts de production inéquitables.
La Roumanie a été inondée par des céréales en provenance d'Ukraine. Il s'agit d'une concurrence déloyale. Ici, les engrais sont très chers. Donc tout ce que nous mettons dans le sol est très cher. Et ce que nous vendons ne l'est pas du tout.
L'une des solutions, c'est que les marchandises ukrainiennes ne soient plus vendues sur le territoire roumain.
Comment un pays en guerre, à l'économie fragilisée, s'est-il transformé en menace pour l'Europe et son agriculture? C'est tout le paradoxe de l'Ukraine, géant agricole, privé de son commerce maritime en mer Noire. Depuis la fin des droits de douane en mai 2022, Bruxelles a ouvert grand ses portes aux marchandises ukrainiennes, plus 176% en volume entre 2021 et 2023, à des prix jusqu'à 2 fois moins chers.
On met en concurrence des producteurs de poulets français qui respectent un certain nombre de réglementations sur l'environnement, sur le bien-être animal, sur le sanitaire, avec les contrôles salmonelles par exemple, avec un poulet produit en Ukraine qui ne respecte pas les mêmes normes et qui est par ailleurs est produit sur des fermes-usines de 10 à 20 poulaillers qui ont sur site jusqu'à 2-3 millions de volailles, alors qu'en France, la moyenne des élevages, c'est à peu près 40 000 volailles.
L'Ukraine, accusée de ne pas jouer avec les mêmes règles. Les gouvernements européens pressés de réagir. En sommet extraordinaire à Bruxelles aujourd'hui, le sujet est immanquablement arrivé sur la table des négociations.
Ce qu'on a décidé aujourd'hui, enfin ce qui va être décidé aujourd'hui par les chefs d'État sur la base d'une proposition qui date d'hier, et à notre demande, c'est tout en gardant un degré élevé, évidemment, de solidarité avec l'Ukraine, il faut le rappeler, on va remettre des quotas sur le poulet ukrainien, d'accord, de façon à empêcher une déstabilisation trop importante de nos filières. Et on essaie de trouver le point d'équilibre.
Entre solidarité à l'Ukraine et protection de ses agriculteurs, lui a en tout cas choisi. Le Premier ministre hongrois s'est affiché hier soir au chevet des fermiers en colère dans les rues de la capitale belge.
La Commission européenne devrait représenter les intérêts des agriculteurs européens, pas les intérêts des Ukrainiens contre ceux des Européens.
Est-ce qu'il faut arrêter d'importer des produits ukrainiens ?
Oui, bien sûr, il faut les arrêter.
Objet de toutes les critiques du monde paysan, l'Ukraine a tout de même reçu aujourd'hui le soutien des 27. 50 milliards d'euros d'aide, finalement débloqués en début de journée. Une enveloppe désespérément attendue par Volodymyr Zelensky, visiblement soulagé depuis Kiev.
C'est un message clair. L'Ukraine va résister et l'Europe va résister avec elle. C'est aussi très important que cette décision ait été prise à l'unanimité des 27 États membres.
Résister, faire bloc, alors qu'approchent dans quelques jours les 2 ans d'une guerre qui s'éternise et dans laquelle ni l'Ukraine ni la Russie ne semble prendre l'avantage pour le moment.
Et cette question d'Alain dans le Val-de-Marne, j'avoue que je me la suis posée aussi. Comment l'Ukraine, pays en guerre, peut-elle inonder l'Europe de ses produits ? Ça veut dire que l'agriculture ukrainienne fonctionne encore à plein malgré la guerre ?
Alors à plein, je ne sais pas, mais en tout cas, elle fonctionne puisque tout le territoire ukrainien n'est pas concerné par la guerre. Et vous vous souvenez, au tout début de la guerre, les Ukrainiens faisaient écouler leur culture, comme ils l'ont toujours fait, par la mer Noire, avec plusieurs bateaux qui ont été bombardés par les Russes. Et on leur a offert, les Européens ont réagi très rapidement, et ont offert la possibilité, ont réduit les droits de douane, en fait, hein, sur un certain nombre de produits ukrainiens, pour permettre aux Ukrainiens de survivre malgré la guerre. Ouais. Donc on part d'un bon sentiment. Mais simplement, c'est vrai que ils ont quand même besoin d'exporter, étant le grenier à blé de l'Europe, et à l'époque c'était le grenier à blé de tout l'espace soviétique, eh bien c'est un secteur d'activité extrêmement important. Donc quand on leur a offert cette possibilité d'arriver sur le marché européen, ils ne s'en sont pas privés, bien évidemment.
L'exportation multipliée par 20, hein,
ouais, tout à fait.
Vers l'Europe, c'est pas rien.
Faut rappeler toujours, hein, la terre noire ukrainienne, elle est incroyablement plus productive que toute la terre européenne. C'est vraiment cette réputation de grenier parce que c'est vraiment un des trésors de l'Ukraine. Après, je pense qu'effectivement, par rapport à ce qu'on évoque, c'est que quand vous facilitez les importations, vous n'avez pas à payer directement la guerre. On voit d'ailleurs très bien que c'est ce qui est en train de se passer. Ça permet de ne pas augmenter le budget européen. En fait, vous êtes en train de faire payer l'effort de guerre à une certaine activité, c'est-à-dire l'agriculture. Et c'est exactement ce que disent, c'est vraiment ce qu'on a vu d'ailleurs à Bruxelles, et les Hongrois et les Français, en fait, ils disent ça, en fait, mais on est tous solidaires, mais en fait, c'est nous qui sommes surtout en train de payer. Et effectivement, là, aujourd'hui, on est en train de dire, bon, si peut-être on va commencer à contingenter, mais on garde quand même, effectivement, l'exemption des droits de douane, on va augmenter l'enveloppe. Et là, évidemment, on va avoir l'effort de guerre qui devient plus apparent. Il est clair aussi que par rapport à la Russie, c'était peut-être plus facile de dire, on n'aide pas vraiment l'Ukraine, mais enfin, effectivement, ils peuvent exporter massivement sur nos marchés et donc, évidemment, avoir de l'euro, comme d'ailleurs les Russes en ont avec le gaz et le pétrole.
Et Cyril Gradini, on voyait Pascal Canfin qui essaie de trouver il n'est pas facile à tenir le discours politique, la solidarité naturellement vis-à-vis des Ukrainiens et en même temps, la solidarité aussi vis-à-vis des agriculteurs français qui sont très clairement impactés par ces nouvelles règles du jeu des importations ukrainiennes.
D'autant que depuis le début de la crise, Pascal Canfin est quand même entre les deux, puisque c'était lui qui était à l'initiative du fameux plan du pacte vert. La question de la jachère aussi, il l'a portée contre les agriculteurs français. Là, le principe de solidarité, je pense que la plupart des chefs d'État et de gouvernement, voire tous les chefs d'État et de gouvernement européens, ne vont pas le remettre en question. Simplement, la difficulté à l'aune des élections européennes, est-ce que l'opinion publique ne va pas commencer à basculer de l'autre côté sur est-ce que finalement on n'en fait pas trop pour les Ukrainiens et est-ce que, en voyant la problématique des agriculteurs français. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un basculement, un repli sur soi en se disant d'abord les nôtres avant
les
Ukrainiens?
Regardez cette question, cette remarque de Robin. Ne devrions-nous pas nous occuper en priorité de nos agriculteurs plutôt que de débourser autant de milliards pour l'économie ukrainienne? Peut-être Marion Van Rettegem, ou je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Ils en ont besoin en ce moment, les Ukrainiens, de ces rentrées financières pour tenir la tête hors de l'eau.
Et puis tout le monde est conscient, enfin en tout cas ceux qui réfléchissent sont conscients que si l'Ukraine perd la guerre, tout le monde s'effondre avec elle. Donc c'est dans l'intérêt des agriculteurs aussi français et européens d'accepter ce sacrifice de solidarité pour leur bien à eux aussi. Donc c'est ça qui est... Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ce Conseil européen qui était censé être un conseil extraordinaire de soutien à l'Ukraine, c'était ça l'enjeu majeur. Finalement, les agriculteurs se sont invités et l'Ukraine est devenue la coupable désignée de ce conseil en instaurant en effet une concurrence déloyale. Et sachant que on avait beaucoup parlé du plombier polonais, maintenant on parle du poulet ukrainien. J'avais vu une comparaison entre l'équivalent d'une ferme européenne qui produit, en raison de toutes les normes et les contraintes, produit 40 000 poulets par an. La ferme ukrainienne en produit 2 millions. Donc c'est des proportions absolument infernales. Et je comprends que les agriculteurs s'en inquiètent.
Et l'autre partie de l'équation, on en parlait tout à l'heure, ce sont les élections européennes.
On va en parler dans un instant. Je vous assure qu'on va revenir aux élections européennes. Si on reste sur le dossier purement ukrainien, on peut quand même dire que les Européens se sont mis d'accord sur une aide de 50 milliards. C'était pas gagné parce qu'on a vu que Viktor Orban était un peu réticent.
Oui, il a demandé d'ailleurs que l'argent hongrois n'arrive pas en Ukraine, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Bon, je ne sais pas comment on lui a dit que ça se passerait, mais enfin, a priori, il a réussi. Mais par rapport au discours que vous aviez tout à l'heure, enfin que vous évoquiez, en disant, faudrait l'auditeur ou le téléspectateur qui nous dit, faudrait-il pas mieux s'occuper de notre agriculture plutôt que de regarder l'Ukraine? Là, c'est terrible parce que ça ressemble aux années 30 du XXe siècle. Hein. Mmh. C'est-à-dire, non, mais ça ne nous concernera pas, après tout, laissons-les. Hein, c'est-à-dire, et d'ailleurs, vous avez aussi ce relent du XXe siècle avec Viktor Orban, quand il est avec les agriculteurs à Bruxelles, il parle du peuple. Comme si, vous voyez, comme autrefois, quoi, comme si 90% des gens vivaient à la campagne. Mmh. Il est là, il a utilisé ce terme, qui est quand même un terme extrêmement fort, y compris en Hongrie, qui est un pays très industriel. Donc il y a cette idée un peu de dire, oui, mais enfin, bon, concentrons-nous sur les vraies valeurs de nos pays, et puis ne regardons pas après tout ce qui est l'affaire juste ukrainienne-russe, alors que Marion van Bategen le disait à l'instant, probablement que les 6 prochains mois vont être absolument déterminants, cette année 2024, pour l'avenir de l'Europe. Mmh. Parce que si l'Ukraine s'effondrait, on peut vraiment craindre une extension de la guerre. Et on voit bien que, d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de déclarations, y compris du Premier ministre, de notre nouveau Premier ministre, en disant « c'est absolument vital qu'on soutienne l'Ukraine parce que nous avons vraiment cette question. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir demain une extension de la guerre ?»
Mais est-ce qu'on n'est pas dans une bascule quand même, là, Marion ?
De quel point de vue ?
Sur l'opinion, vous voyez, ces questions-là, pardon, sans juger la personne qui nous l'envoie ce soir, on ne l'aurait jamais eu il y a encore 6 mois.
En effet.
Est-ce qu'on n'est pas, à un moment donné, où, après 2 ans de guerre et puis sans succès militaire très saillant, visible sur le terrain par les Occidentaux, est-ce qu'on n'est pas à ce point de bascule ?
Il y a un point de bascule dans les deux sens, je dirais, parce que d'abord c'est significatif que les agriculteurs, les syndicats aient décidé d'arrêter leur mouvement alors même qu'on n'a pas mis fin à la baisse des droits de douane, à l'annulation des droits de douane pour les Ukrainiens. Ça prouve bien que ce sujet n'est pas majeur pour eux. Et il y a une fatigue des opinions, je ne la sens pas vraiment en Europe, je sens plutôt une mobilisation et un frémissement de mobilisation extrême du point de vue de tous les pays, d'appels et même de messages assez alarmistes sur une nécessité de mobilisation militaire.
Une inquiétude européenne.
Une inquiétude véritable et sur le fait qu'on s'inscrit, et là les 50 milliards le montrent, c'est que l'Europe est vraiment apporte un soutien massif à l'Ukraine. Ça veut bien dire qu'on n'est pas à la fin de la guerre, que l'échec de la contre-offensive ne signe pas la fin de la bataille et qu'au contraire, on est en soutien croissant.
Et vous avez raison, avec même des responsables militaires européens qui s'inquiètent des ambitions peut-être de Vladimir Poutine, une fois le dossier ukrainien fermé, notamment sur les pays baltes. Et on sent une inquiétude européenne des militaires sur ce sujet-là.
Et une fois Trump peut-être réélu aux États-Unis. N'oublions pas aussi que c'est ce qui va se passer cette année. Enfin, que ça peut se passer, Trump et le retrait américain éventuel.
Oui, et en même temps, la perspective de Trump est un vrai souci pour les Européens. Parce qu'aujourd'hui, les Européens fournissent autant d'aide que les Américains, mais fournissent essentiellement de l'aide financière. Ils n'ont pas les capacités de fournir tous les armements dont auraient besoin les Ukrainiens pour gagner cette guerre. Donc, il y a un moment donné, l'équation n'a pas de solution. C'est un vrai sujet.
Et Emmanuel Macron a sans doute à l'esprit ce qu'on est en train de se dire, parce qu'il a évoqué le fait que la fatigue des opinions européennes, en disant en gros, les Russes ne comptaient pas sur notre fatigue et notre désunion d'une certaine manière.
Oui, et ils sont quand même très embêtés par rapport à ce que vous disiez, Marion. Il y a quand même un ressenti d'enlisement dans la crise ukrainienne. Dans la guerre ukrainienne, les opinions publiques, étant donné qu'en plus ça n'est plus au cœur de l'actualité, ça l'est, ça le reste, mais ça n'est plus aussi prégnant qu'il y a encore quelques mois. Donc il y a certainement, au fond, ce ressenti d'enlisement où on pense que finalement la guerre s'est calmée. La guerre, ça n'est plus comme au départ. Donc il y a cette bascule qui peut intervenir assez rapidement, où à un moment les opinions publiques européennes vont dire « maintenant stop ». Ça ne se passe plus, ça s'est calmé, revenons aux fondamentaux et revenons à nous-mêmes.
Revenons à nous-mêmes.
Là aussi, on revient à des choses très très anciennes. Nous sommes en hiver. En hiver, les paysans peuvent dire, là, il y a des choses qui ne vont pas. Les militaires sont aussi en pause. On peut craindre, évidemment, une offensive qui reprenne au printemps, notamment de la part des Russes.
Et par ailleurs, l'hiver a commencé sans qu'on ait encore eu de problématiques au niveau de l'électricité et du gaz. Est-ce que le mois de février, est-ce que le mois de mars, il n'y aura pas une recrudescence, comme on a pu le connaître au moment au départ de la guerre, qui aurait un impact de nouveau sur les opinions publiques européennes?
C'est vrai qu'on n'en parle plus.
Oui.
La question énergétique.
Oui, mais la question énergétique, c'est quelque chose qui avait aussi fait prendre conscience aux Européens qu'on était en guerre, qu'on était aussi en guerre.
On n'en parle plus, sauf qu'on parle quand même de la hausse de l'électricité qui est effective depuis le 1er février. alors, ce dont nous venons de parler, l'Ukraine, la PAC, ce seront de toute façon des enjeux des Européennes. Depuis le début de l'émission, on l'évoque, alors que Renaissance sert toujours le nom de sa tête de liste, c'est bien Raphaël Glucksmann qui conduira les socialistes en juin prochain. L'affiche se précise, mais une menace pèse sur ce scrutin, le risque d'ingérence étrangère et en particulier le risque d'ingérence russe pour déstabiliser le vote de quelques 400 millions d'Européens. Juliette Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
Quelques mots en cyrillique oubliés et voilà la supercherie détectée. Une fausse publication sur X, prétendument écrite par la ministre des Affaires étrangères allemande. Un exemple parmi d'autres d'une vaste campagne de désinformation pro-russe révélée par le quotidien Der Spiegel. 50 000 faux comptes détectés le mois dernier, propageant tous ou presque le même message. Le gouvernement allemand négligerait sa population pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Interrogée sur cette affaire en particulier, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand confirme la menace.
Nous ne commentons pas les reportages des médias. Mais ce que je peux dire, c'est que la désinformation est devenue une menace globale. Elle est utilisée par ceux qui ne partagent pas nos valeurs, souvent pour déstabiliser les sociétés. Cela ne s'applique pas uniquement à l'Allemagne, mais aussi aux démocraties occidentales et plus largement au monde entier.
Une menace exacerbée à quelques mois des élections européennes. En juin prochain, 400 millions d'Européens sont appelés aux urnes pour l'élection du Parlement. Le chef de la diplomatie européenne met en garde.
Les fausses informations sont aujourd'hui beaucoup moins chères à produire et beaucoup plus difficiles à détecter. Ce qui rend encore plus dangereuses les menaces asymétriques qui pèsent sur nos démocraties. Cette année est cruciale pour lutter contre les activités de manipulation de l'information et d'ingérence menées depuis l'étranger, parce que nous avons beaucoup d'élections en 2024.
Des ingérences russes qui pourraient faire monter le vote eurosceptique. Une menace prise au sérieux par Bruxelles, alors que l'extrême droite est déjà annoncée comme pouvant sortir renforcée du scrutin. Dans toutes les têtes, la victoire surprise aux Pays-Bas du souverainiste islamophobe Geert Wilders il y a 2 mois. Le chef du Parti pour la Liberté a notamment bâti sa notoriété sur le rejet des migrants et des fonctionnaires de Bruxelles. En France, 81 députés doivent être désignés. Parmi les têtes de liste déjà annoncées, Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal, Marie Toussaint, Léon de Fontaine et Jordan Bardella. Le Rassemblement national, dans le viseur du gouvernement sur la question européenne. Gabriel Attal y a fait référence mardi dans son discours de politique générale.
L'Europe, éternel bouc émissaire de ceux qui, faute de pouvoir diriger un pays, veulent détruire tout un continent. On peut vouloir changer l'Europe pour l'intérêt du pays, et nous le faisons. Mais on ne peut pas vouloir sortir de l'Europe, sauf à avoir d'autres intérêts, sauf à servir un autre pays, une autre puissance.
Allusion à peine voilée au lien supposé entre le parti d'extrême droite et la Russie. En juin, une enquête parlementaire rédigée par une députée Renaissance avait déjà désigné le RN comme courroie de transmission du Kremlin. Il y a un mois, autour du Washington Post, le quotidien américain décrit le parti comme l'instrument de Moscou.
Les stratèges politiques du Kremlin ont reçu pour instruction de promouvoir la discorde politique en France à travers les médias sociaux et des personnalités politiques.
Le RN dément fermement et s'accroche au sondage qu'il annonce en tête des intentions de vote pour les européennes. Le parti espère en faire un tremplin à 3 ans de la prochaine élection présidentielle française.
Et cette question de Catherine en Côte d'Or, Vladimir Poutine se réjouit-il de voir les agriculteurs européens pointer l'Ukraine du doigt ?
Bien sûr, c'est une bénédiction et on voit bien d'ailleurs son obligé, Viktor Orban, qui est l'obligé de Poutine au sein de l'Union européenne. On l'a vu mercredi soir, qui flattait les agriculteurs et qui les encourageait à se révolter. Donc tout ce qui est facteur de division pour Vladimir Poutine est bon. Et là, c'est vrai qu'il est particulièrement en bonne position parce qu'il a auprès de lui, on parlait de courroie de transmission à propos du Rassemblement national, on ne saurait mieux dire, mais il a 9 partis d'après un think tank ECFR, là. 9 partis de européens vont arriver en tête des élections européennes et 9 partis en seconde position. Alors la toute petite nuance, c'est que parmi les 9 partis en tête, il y a celui de Giorgia Meloni qui n'est pas pro-Poutine. Et d'ailleurs, il y a un facteur de division entre ces partis d'extrême droite qui peut mettre un bémol à tout cela. Mais malgré tout, Poutine, en effet, a des relais pour transmettre ses fausses informations.
Vous parlez de Viktor Orban, son relais, il s'est rendu tout à l'heure, on l'a vu dans le reportage, auprès des agriculteurs à Bruxelles. Et effectivement, c'est important parce qu'il leur a dit précisément la voix des gens de la rue, le peuple, la voix des gens de la rue n'est pas prise au sérieux par les dirigeants. C'est un déficit démocratique. Et là, il avance, il est en campagne, Orban, et il dit il y a des élections européennes en juin, nous avons besoin d'un nouveau Parlement, il faut trouver des nouveaux chefs. Donc clairement.
Comme s'il était le peuple plus que les autres, mais ça. Bon.
Et ce sujet-là des agriculteurs lui donne des arguments pour pousser son avantage.
Probablement que par rapport à la question qui était posée, qui était intéressante, est-ce que Poutine se réjouit ? Oui. Il se réjouit doublement, parce que d'abord, évidemment, ça affaiblit aujourd'hui le lien entre l'Ukraine et l'Europe, mais surtout, le Parlement qui va être élu, ce n'est pas juste une élection, c'est que ça va permettre de définir l'Europe qui vient, c'est-à-dire les années qui viennent vont être vraiment capitales. Et là, évidemment, ce que espère Poutine après la guerre, parce que la guerre s'arrêtera un jour, c'est que déjà l'Europe ait du mal à se dire qu'elle puisse intégrer l'Ukraine. Parce qu'au fond, c'est ça qui est derrière, en disant, est-ce qu'on peut réellement intégrer l'Ukraine ? Est-ce que c'est une économie compatible avec la nôtre ? Finalement, l'endroit le plus sensible, c'est l'agriculture. C'est vraiment, on va dire, là encore, quelque chose qui parle à notre passé.
Sylvie Matelli.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a un intérêt bien compris de tous ces partis populistes à instrumentaliser toutes les crises. Et ce qui est amusant, c'est de voir, amusant ou pas, j'en sais rien, mais c'est de voir combien Vladimir Poutine, il y a une vingtaine de jours, à peu près au tout début du mois, il a expliqué que les Ukrainiens auraient eu plusieurs fois la possibilité de venir autour de la table des négociations, que les Russes étaient prêts à ça. Et on entend tout de suite après certains politiques en Europe qui nous explique la même chose. Donc on voit que les relais sont directs. Alors pour ce qui est de l'ingérence russe, c'est pas nouveau.
Est-ce que c'est pas sous-estimé dans le moment dans lequel nous sommes, Sylvie Matelli? On peut peut-être se souvenir que clairement la CIA à l'époque avait affirmé que l'élection de Trump avait été faite aussi grâce aux ingérences.
Et le Brexit. Tout à fait. Alors on commence à comprendre, je trouve, et c'est de plus en plus cité dans la presse, et vous en parliez dans le reportage qu'on vient de voir, les liens entre certains partis politiques et certaines ingérences. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est sur l'impact des réseaux sociaux et la façon dont les réseaux sociaux jouent sur le point de vue de la population. Et sur des tas de sujets, hein, sur des tas de sujets, pas seulement le sujet agricole, le sujet de la Russie et de la guerre en Ukraine, où au fond, quand on ne connaît pas trop un sujet, on entend, ça crée un bruit de fond, ça crée un bruit de fond qui, parce qu'on ne connaît pas trop le sujet, finit par convaincre et ça finit par devenir une vérité, en fait, et une évidence pour tout le
mais
monde.
Mais là, par exemple, puisqu'on parle, sans le nommer, du Rassemblement national, ce qu'a fait clairement le Premier ministre lors de son discours de politique générale, est-ce qu'ils s'en sortent en disant c'est la faute de l'Europe? C'est compliqué sur un sujet comme celui-ci d'avoir ce réflexe qui est celui du RN depuis toujours, de cibler Bruxelles.
Par rapport à quel
par rapport au dossier des agriculteurs, là, ils ne peuvent pas dire que c'est la faute de Bruxelles, le Rassemblement national.
Et surtout, c'est très compliqué, dans le moment de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, de taper sur les Ukrainiens, même si on sait que le Rassemblement national, les liens du Rassemblement national avec la Russie. Là, dans les futurs débats qui vont avoir lieu au moment des élections européennes, tout candidat en face de Jordan Bardella pourra lui demander... Quelle est votre position par rapport à l'Ukraine aujourd'hui?
Mais je pense que là, on disait tout à l'heure, le danger du mouvement des agriculteurs aujourd'hui, c'est qu'au fond, une partie de la population se dise « Ah non, mais les mesures écologiques, c'est pas bon. » Et donc, on vient... Mais c'est l'autre danger, à mon sens, qui est d'ailleurs vraiment sous-jacent, c'est qu'on dise « Et l'Europe, c'est pas bon non plus. L'Europe, c'est les normes. » C'est-à-dire que vous voyez, vous avez en fait...
C'est la PAC aussi, c'est les subventions, c'est
sauf que
ce sont les aides.
Oui, mais ça, c'est pas vraiment ce que disent les agriculteurs sur les... Vous voyez, ils sont pas en train de dire « Oui, on n'aime pas les normes, mais on aime la PAC. » Ils disent « Non, non, il y a un vrai problème des normes. »
Le RN ne le dit pas non plus.
D'accord, mais quand ils votent, les agriculteurs, ils votent davantage pour Renaissance que pour le Rassemblement national.
On est d'accord.
Hein.
On est d'accord.
Et en même temps, le monde rural vote de plus en plus pour le Rassemblement national. Oui. Parce que ça fait écho aussi à la diminution des services publics.
Le monde rural, pas les agriculteurs.
Le monde rural, pas forcément les agriculteurs.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a une tête de liste du côté de Renaissance pour les européennes? Est-ce qu'il va falloir y aller?
Emmanuel Macron.
Emmanuel
Macron et un directeur de campagne qui est Gabriel Attal. On l'a vu là dans son discours de politique générale, quand il a parlé de la question européenne, on a senti quand même qu'il voulait monter au front pour défendre les valeurs de Renaissance.
Vous pensez que ce sujet des agriculteurs que nous évoquons depuis le début de l'émission va peser sur ce scrutin, ou est-ce qu'on va passer à autre chose, ou est-ce que ça a ouvert une brèche, comme vous nous le disiez, sur la question écologique, sur la question de l'Ukraine?
Non, on l'a dit vraiment, même le sujet s'invite tout seul, c'est-à-dire le Conseil européen n'était même pas prévu. En fait, là, c'est évidemment l'image qui marque, et on l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne a été extrêmement ébranlée. Là, c'était pas arrivé depuis des années que vous ayez le blocage du pays par les agriculteurs. Les Pays-Bas, qui est quand même une très grosse puissance économique européenne, a vraiment une question énorme sur son agriculture, sur son élevage. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler. Hein, la population a voté pour un parti qui était... qui était dans cette logique agricole, alors qu'en réalité, ça fait très très longtemps que les Pays-Bas ne sont plus majoritairement européens.
Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement, la question de la souveraineté alimentaire, la question de l'agriculture, est-ce que ça n'est pas un débat beaucoup plus sain que celui qui augurait au début, il y a encore quelques mois, l'immigration, dont on pouvait penser, il y a encore quelques semaines, en fin d'année, que ça allait être le cœur même de l'élection européenne. Là, on réussit, certes, avec la problématique de la circulation des biens, mais est-ce que, justement, on ne se dit pas, on a un autre débat
qui est un vrai débat de fond. L'immigration est aussi un débat de fond pour les Européens.
Mais malheureusement, Cyril, je ne pense pas que ce soit un jeu à somme nulle. Et ce n'est pas parce qu'on parle plus d'agriculture qu'on va parler moins d'immigration. Et malheureusement, tous ces sujets de conflit vont s'ajouter.
On aurait pu avoir qu'un débat sur l'immigration.
Et il n'empêche qu'on annonce depuis quand même des mois que les préoccupations économiques seront le premier dossier de la campagne pour ces européennes. Or, on parlait au tout début de l'émission de cette reconnexion entre la population, finalement entre le consommateur et le monde agricole. Et je crois que ce qui reconnecte, c'est l'inflation. C'est le fait que ces derniers mois, le prix des produits alimentaires ont fortement augmenté. Et donc, même la population s'inquiète, en fait, de la santé de ce monde agricole.
Et nous revenons maintenant à vos questions.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.